Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, Ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 9 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les ministres iraniens et allemands des affaires étrangères se sont entretenus au téléphone de la reprise des négociations de Vienne. L'armée iranienne a intercepté des drones américains. Frappe israélienne dans la province de Homs, 2 soldats syriens blessés. Et des milliers d'Éthiopiens se sont réunis dans la capitale Addis Abeba pour manifester leur soutien à l'armée. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Les ministres iraniens et allemands des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et Heiko Maas, se sont entretenus au téléphone de la reprise des négociations de Vienne. Le ministère allemand des Affaires étrangères a écrit sur Twitter que Heiko Maas s'est entretenu au téléphone avec Amir Abdollahian. L'axe principal de ces discussions était la reprise des négociations de Vienne à la fin de ce mois-ci. L'objectif de l'Allemagne est de conclure les négociations au plus vite et le reste sera afin d'assurer un retour complet au plan global d'action conjoint dans les plus brefs délais, a ajouté le ministère allemand des Affaires étrangères. À Vienne, soit on s'entend sur tout, soit on ne s'entend sur rien, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Tout ce qui avait été atteint lors des précédents cycles de négociations n'a été qu'un projet, a-t-il déploré lors d'un point de presse ce lundi 8 novembre, estimant que les États-Unis devraient prouver qu'ils ont des garanties, qu'ils n'abandonneront pas à nouveau l'accord si les pourparlers réussissent à le relancer. Au cours des cycles précédents, les choses étaient arrivées à une impasse sur plusieurs questions, en raison de l'entêtement et de l'insistance de l'Amérique à poursuivre la politique de Trump et à maintenir certaines de ses sanctions, a précisé Saïd Khatibzadeh, notant que Washington a besoin d'une décision politique pour mettre fin à l'héritage illégal et honteux de Donald Trump. tout en assurant qu'il va falloir donner à Washington une autre opportunité de revenir aux accords internationaux, il a toutefois stipulé que l'Iran ne négociera avec personne concernant les affaires régionales. Des drones MQ-9 et RQ-4 de l'armée américaine qui sont entrés dans la zone de l'exercice militaire de l'armée iranienne, baptisé l'exercice conjoint Zolfaror 1400, ont été interceptés et avertis. Au cours de l'exercice Zolfaror 1400 de l'armée iranienne, les drones MQ-9 et RQ-4 sont entrés dans la zone de l'exercice militaire de l'armée iranienne, tout en étant en pleine observation du réseau de défense aérienne intégré de l'Iran à des kilomètres de distance. Ces drones sont interceptés par l'armée de l'air et ont fait l'objet d'un sérieux avertissement. Les sources irakiennes ont annoncé la visite du commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Rouhani, en Irak à Bagdad, et sa rencontre avec le président et le premier ministre irakien. La chaîne Al-Mayadin a rapporté que, d'après des sources irakiennes, le général Rouhani s'était entretenu avec le président Barham Salih et le premier ministre irakien Mustafa Al-Kazemi et a insisté sur le besoin de calme de l'Irak et le maintien de la solidarité intérieure. D'après ses sources, le général Rouhani est entré dimanche soir en Irak après les récentes évolutions dans ce pays. Le gouvernement irakien a annoncé dimanche matin que la résidence du premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi avait été visée par un drone chargé d'explosifs, mais qu'il n'avait pas été blessé. Deux soldats syriens ont été blessés dès lundi soir dans de nouvelles frappes israéliennes contre des objectifs dans le centre et l'ouest du pays, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Citant une source militaire, l'agence Sana a fait état d'une agression de l'ennemi israélien visant des cibles dans le littoral et le centre de la Syrie, évoquant des dégâts matériels et deux soldats blessés. Nos défenses aériennes ont intercepté l'agression et abattu la plupart des missiles, a affirmé la source, précisant que l'attaque israélienne a été menée depuis l'espace aérien du Liban voisin. Et des milliers d'Éthiopiens se sont réunis dans un stade de la capitale Addis Abeba pour manifester leur soutien aux nouvelles recrues militaires. Alors que le pays commémore l'anniversaire de la guerre qui oppose les forces armées éthiopiennes aux forces tigréennes et leurs alliés, le gouvernement éthiopien a répondu à l'alarme internationale qui vise à faire taire les discours de haine du gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas une génération qui gâche la victoire, ma génération et moi allons tous de marcher vers les champs de bataille pour surmonter le défi. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, a déclaré Adanesh Abebe, maire d'Addis Abeba. Et toujours concernant l'actualité africaine, les gouvernements ivoiriens et nigériens ont signé plusieurs accords de coopération bilatérale. Les gouvernements ivoiriens et nigériens renforcent leur coopération. C'est dans ce cadre que s'inscrit la grande mission mixte de coopération ivoiro-nigériane qui s'est récemment tenue à Abidjan et a débouché sur la signature de nouveaux accords. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont signé 9 nouveaux accords bilatéraux à Abidjan lors de la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-nigérienne. L'information a été rendue publique par le gouvernement ivoirien dans une note d'information publiée sur son site internet. Ces accords concernent plusieurs secteurs, dont la coopération militaire, la protection civile et l'assistance de technique, l'économie numérique, les questions consulaires et la migration, la signature d'une lettre d'intention entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association des industriels du Nigeria a en outre eu lieu en vue de booster les activités du secteur privé dans les deux pays. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La guerre multifront avec l'axe de la résistance anti-Israël, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. L'entité des sionistes craint par-dessus toute une éventuelle guerre en multifront avec les différents protagonistes de l'axe de la résistance dans son ensemble. Lors d'une interview accordée au canal 12 de la télévision israélienne, le commandant du front intérieur de l'armée israélienne, le major général Uri Gordon, a déclaré qu'en cas d'une future guerre avec le Hezbollah libanais, à Essam, de 2500 missiles viseraient chaque jour les profondeurs des territoires occupés, notant que l'opinion publique en Israël n'était pas prête à y faire face. Je pense que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, est conscient de nos points faibles à travers lesquels il pourrait nuire à Israël et nous infliger des coups durs, a-t-il ajouté. Les récents propos du Gordon sont intervenus après la fin des manœuvres israéliennes du front intérieur, au cours duquel Tel Aviv a mesuré l'état de préparation de ses forces et exercé une variété de scénarios de sécurité dans le nord de la Palestine occupée. L'exercice avait commencé le 31 octobre et s'était déroulé sur 5 jours. Annonçant la hantise pour Israël liée aux milliers de missiles de précision en provenance du Liban, de Syrie, du Yémen et d'Iran, Gordon a ajouté qu'Israël va faire de son mieux dans tous les domaines pour améliorer ses propres capacités et empêcher celles du camp adverse. Il a indiqué « J'en suis pas sûr que l'opinion publique israélienne comprenne les conséquences du déclenchement d'une éventuelle bataille dans le nord d'Israël si cela se produit entre 2500 missiles de haute précision viserait chaque jour les profondeurs de l'entité israélienne de toutes parts, ce qui se décrit comme une grande attaque. Pour maintenant et les années à venir, il y aura d'énormes lacunes en matière de sécurité dans la stratégie d'Israël, ce qui représente pour Israël un sujet de préoccupation majeure, a-t-il dit. Uri Gordon avait affirmé lundi 18 octobre qu'Israël ne cherchait pas à s'engager dans une nouvelle guerre avec le Hezbollah libanais, mais en cas d'un nouveau conflit entre les deux camps, Israël devrait s'attendre à être frappé quotidiennement par quelque 200 missiles de haute précision du Hezbollah libanais. Ce général israélien avait poursuivi lors de la bataille de Gaza, éclatée le 10 mai, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, des villes comme Tel Aviv et Ashdod ont subi un plus grand nombre de missiles et de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. En cas de conflit ou de guerre avec le Hezbollah, nous attendons à ce qu'il y ait au moins 5 fois plus de roquettes tirées chaque jour du Liban vers Israël, a-t-il à ajouter.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de l'activité navale de l'Iran dans le golfe Persique. En effet, l'Iran a démontré en assurant la sécurité énergétique mondiale en neutralisant des opérations de piratage des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Alors, les États-Unis jusqu'ici se croyaient tout permis, alors que l'Iran donc a prouvé encore une fois qu'il est capable d'assurer donc ses sécurités dans la région. Et nous parlerons bien sûr dans ce débat des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans les opérations militaires des États-Unis, surtout récemment, ils ont démontré, dans le détroit d'Ormuz. Nous parlerons bien sûr de cette crise diplomatique entre les États-Unis et la France, où les États-Unis, donc maladroitement, a volé sous le nez de la France des contrats militaires importants, des sous-marins pour l'Australie. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, juste après ce reportage.
Un groupe de réflexion américain a écrit dans une récente analyse que l'Iran fait une démonstration de sa capacité à assurer la sécurité énergétique mondiale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Dans une analyse récente, la puissance navale de l'Iran dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, Middle East Institute a écrit que la fermeture pour plusieurs années du détroit ne nécessiterait que 300 mines et que la marine américaine serait totalement incapable de faire face à cette menace à court et à moyen terme. De toute évidence, la force navale du CGRI, en annulant la saisie par l'US Navy d'un pétrolier transportant du pétrole iranien en mer d'Oman, n'a pas seulement démontré la nullité stratégique et tactique de l'arrogance mondiale que l'on retrouve au stade terminal de la décrépitude et qui se croyait pourtant tout permis jusqu'à l'avènement de la révolution islamique. Cette opération rapide des forces navales du CGRI est une opération anti-piratage qui révèle, entre autres, des failles fondamentales, un manque d'intelligence et surtout l'empirisme des puissances déclinantes qui s'accrochent à des stratégies surannées. Cela intervient alors qu'en septembre dernier, l'annulation du contrat FSP par les Australiens, car séduit par une offre conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, n'a pas tardé à tourner en crise diplomatique ouverte. Mais la réaction française face à cette trahison, à maintes reprises, était critiquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À gauche, par exemple, le sénateur du Parti socialiste Rachid Temal s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre plateau et à votre...
C'est un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bien sûr bonjour à Luc Michel.
Un débat prometteur, chers amis. Nous parlerons bien sûr de cette capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité énergétique mondiale dans la région du golfe Persique. Alors, Luc Michel, bien sûr, il est caché pour personne que l'Iran est là pour assurer la sécurité, surtout la sécurité énergétique, en neutralisant, on a vu tout récemment, les opérations de piratage des États-Unis qui ont été neutralisées par l'Iran.
La puissance maritime de l'Iran, elle ne s'exprime pas seulement, d'ailleurs, dans le golfe Persique, puisque maintenant... La marine iranienne est présente dans l'océan Atlantique, dans la Manche, dans la Baltique. L'amiral commandant votre flotte a participé au 325e anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Et ensemble, les marines russes et iraniennes neutralisent les Occidentaux dans le golfe de Guinée, à l'entrée de la mer Rouge, mais également dans l'entrée de l'océan Indien. Il y a en particulier la signature entre l'Iran et Madagascar. Un accord naval qui ouvre à la marine de guerre iranienne tous les ports de Madagascar. Les Français, d'ailleurs, ont réagi maladroitement, puisqu'ils avaient tenté, il y a quelques mois, un coup d'État et un assassinat du président malgache. C'est donc une série d'erreurs. Mais ce qui saisit actuellement toutes les puissances occidentales, c'est ce que les Romains appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'excès d'orgueil de puissance qui fait que ces gens maintenant, ou une politique militaire en particulier dans le maintenant, qui est irréaliste, qui ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation de la coopération de Shanghai en un bloc militaire et l'apparition d'une contre-OTAN, en particulier sur les mers.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, nous parlons bien sûr de cette démonstration de force, des forces navales de l'Iran en neutralisant cette opération de piratage qui a été très maladroitement organisée.
Oui, alors vous savez, les États-Unis, et comme beaucoup de pays européens qui interviennent dans la région, accumulent maladresse sur maladresse. Et je pense que c'est une erreur fondamentale en politique étrangère de voir se créer un grand nombre d'injustices de la part des États-Unis vis-à-vis de pays comme l'Iran. Je pense que l'Iran devrait être un véritable allié de l'Union européenne. Allié aux États-Unis, ça va être bien sûr très difficile parce que les États-Unis n'ont pas du tout la lucidité de voir la réelle politique au niveau international. Alors que l'Iran a démontré un peu sa position de force, c'est une certitude, et ils ont eu raison de le faire. Je rappelle quand même qu'ils ont quand même une partie de leur côte sur le Golfe. Donc il est tout à fait légitime que l'Iran intervienne. Ce qui est nettement moins légitime, ce sont les nombreuses interventions occidentales et qui se permettent depuis maintenant plus d'un demi-siècle d'intervenir et d'ingérer dans les affaires d'autrui. Je ne sais pas comment réagiraient les États-Unis si des pays comme l'Iran ingéraient dans leurs affaires et économiques. Et je pense qu'ils ne seraient pas vraiment ravis de voir une telle situation arriver un jour. Moi, je crois surtout que les États-Unis, comme l'Union européenne, sont des pays qui n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Ce sont des pays qui vivent encore sur des relents de colonialisme et se permettent de vouloir imposer leur dictat à un certain nombre de pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement dépassée. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, devraient émettre et prendre de grandes réserves vis-à-vis des pays comme l'Iran, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus du tout en position de force, puisque je rappelle quand même que les États-Unis sont un pays financier, tout comme l'Union européenne d'ailleurs. Donc on n'a plus les moyens de nos ambitions, et je pense qu'il faudrait mieux se tourner vers la diplomatie afin de trouver des accords avec des pays comme l'Iran, plutôt que de vouloir les affronter de face dans un duel qui ne sert à rien et qui est totalement stérile sur un plan international.
Luc Michel, apparemment les États-Unis ne sont pas prêts à se livrer au charme de la démocratie et au contraire, ils ont toujours accès à la force. Est-ce qu'il est temps que les États-Unis se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de tout faire dans la région, aller jusqu'à donc maladroitement opérer des opérations de piratage?
Écoutez, la piraterie, la lutte contre la piraterie, c'est le prétexte de l'ingérence des marines occidentales dans une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'à l'entrée de l'océan Indien. Mais en réalité, les marines occidentales pratiquent elles-mêmes la piraterie, l'interception de navires, etc. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui correspond, comme l'a bien expliqué M. Hugon, à une vision dépassée des choses. Mais le problème des États-Unis, c'est que depuis le début du 19e siècle, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont les inventeurs avec l'Allemagne de la géopolitique. La géopolitique a été définie par des amiraux anglo-saxons et ils ont défini toute leur capacité mondiale autour d'une projection de la puissance et en particulier la projection de la puissance des flottes au niveau mondial. Dans l'hymne des marines américains, on parle des rivages de Tripoli et ça date du 19e siècle. Donc l'ambition américaine, elle n'était pas uniquement de dominer l'étranger proche, comme le disait la doctrine de Monroe quand ils ont éjecté les puissances européennes, mais dès le 19e siècle, les Américains voulaient être présents, notamment en Méditerranée. C'est une époque terminée, le temps des cas malheureux que s'privant pour ramener les Occidentaux à une vision réaliste des choses. Mais c'est un processus. Le problème, c'est que les géopoliticiens américains, au contraire, ils estiment actuellement que les États-Unis ont encore une quinzaine d'années dans lesquelles ils vont être position de force. Et certains sont tentés par ce que j'ai appelé un banco géopolitique, c'est-à-dire de tenter une opération de force pour garder la suprématie. C'est une voie suicidaire pour tout le bloc occidental, d'autant plus que le bloc occidental, s'il est une unité militaire, est parcouru de fractures qui sont les guerres économiques, comme vient encore de le révéler la querelle des sous-marins australiens.
Et Luc Michel, vous avez parlé tout à l'heure de cette vision réaliste qui ne sont pas adoptées par l'Occident et les États-Unis. De quelle vision parlez-vous?
À un moment donné, la politique américaine était réaliste. C'était l'époque de Kissinger et de Brzezinski. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec leur définition de la géopolitique, mais la géopolitique était quelque chose de rationnel. C'est-à-dire, c'était comme le disait Zbigniew Brzezinski, un grand échiquier avec deux adversaires qui s'opposaient, etc. Mais depuis la fin de la Première Guerre froide, on n'est plus dans cette vision rationnelle. Et avec Trump, on est passé du stade du grand échiquier à ce que j'ai appelé les tables de poker géopolitique. C'est-à-dire que les États-Unis ont tenté une série de coups de poker géopolitique et ils ont été suivis d'ailleurs par d'autres membres du clan occidental, notamment les Français et les Turcs. Ce qui oppose d'ailleurs principalement la France et la Turquie, ce ne sont pas des rivalités économiques, c'est une tentation justement de s'emparer de positions de force géopolitique par ces coups de poker. Tant que l'Amérique ne reviendra pas à une vision rationnelle géopolitique qui est celle de la Russie, de la Chine ou de l'Iran, ils vont marcher à l'abîme et courir à la catastrophe. Ça explique leur recul, mais ça explique aussi le succès de leurs adversaires.
Tout à fait. Merci, Luc Michel. Monsieur Hugon, alors nous avons entendu les propos de Monsieur Luc Michel. J'aimerais que vous développiez à présent davantage des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans l'attitude des États-Unis.
Oh bien, je pense que le manque des réalités aux États-Unis et dans l'Union européenne est vraiment flagrant. Je pense qu'on vit aujourd'hui sur des contextes de politique étrangère qui sont complètement dépassés et qui s'accrochent encore à des concepts de politique étrangère qui ne sont plus du tout adaptés à la situation d'aujourd'hui. Donc les failles, elles existent, elles sont bel et bien là. Et je pense que c'est un véritable problème de réal politique, puisque aujourd'hui, c'est la diplomatie qui devrait prendre le dessus sur la force, de façon à trouver des accords avec des pays comme la Russie, comme l'Iran, de façon à trouver des solutions qui soient pérennes dans l'avenir. Luc Michel le disait, et il a tout à fait raison, cette politique conduite, que ce soit par les Américains ou les Français, va nous amener à une situation critique. C'est une politique qui est condamnée à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur le terrain. Les États-Unis subissent des échecs depuis quelques années aujourd'hui, que ce soit en politique ou sur le plan militaire. On a bien vu le retrait américain, que ce soit d'Irak, en Afghanistan. On ne peut pas dire que leur intervention a été très, très brillante. Ce qu'ils ont fait, c'est amener le chaos dans une région qui était déjà très chaotique, et ce chaos se poursuit par la faute de leur intervention. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque de réalisme dans leur façon d'aborder les problèmes internationaux. Il y a toujours ce relent d'orgueil que l'on trouve d'ailleurs aussi bien côté français que du côté américain, que du côté britannique. Mais ce côté orgueil, je trouve qu'il est totalement dépassé aujourd'hui, puisqu'en fait, nous avons quand même bientôt 8 milliards de personnes sur Terre, ce qui est un véritable problème, cette surpopulation. Cette population va engendrer des appauvrissements économiques et risque de créer des situations explosives dans certaines parties du monde. Et là encore, si on n'est pas capable déjà de gérer une situation comme avec l'Iran ou avec la Russie, qu'est-ce que ça va être le jour où on a un embrasement dans certains pays et un effondrement économique? Moi, je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir parce que je me dis que dans les 15 ans qui viennent, on va voir des bouleversements géostratégiques qui vont être absolument incroyables, dont on n'imagine pas encore les conséquences qu'elles auront pour les 15 ou 20 ans qui viennent.
Oui. Luc Michel, est-ce qu'on peut penser à un espoir pour l'avenir de la politique étrangère des États-Unis? Car cette fois-ci, ce sont des groupes et des institutions politiques qui ont admis donc concrètement de la capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité dans la région du Golfe Persique.
Donc, je ne crois pas à un retour du réalisme parce qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est l'Afghan. La propagande, c'est une dimension de la guerre moderne, notamment de la guerre médiatique. Mais lorsque vous croyez votre propre propagande, vous courez à la mort et au suicide. L'exemple typique, c'est le Troisième Reich en 1941 qui attaque l'Union soviétique en croyant la propagande allemande qui décrit l'Union soviétique comme un État dégénéré aux mains d'un système chaotique, alors que l'Union soviétique, sur le niveau militaire et industriel, est supérieure à l'Allemagne, et qu'on l'ignore souvent, ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé la Blitzkrieg en 1939, c'est le général Joukov en Mongolie extérieure contre le Japon en 1938. C'est la même chose avec les États-Unis. Depuis le régime de Bush 2, ils croient à leur propre propagande. En 2002, il y a un livre qui sort, c'est le manifeste des néoconservateurs, c'est le chef de file de ceux-ci, Bill Kristol, il écrit un livre, Notre chemin commence à Bagdad. Dedans, ils expriment des opinions irréalistes, c'est-à-dire tout d'abord que le modèle occidentalo-américain, c'est le modèle universel, c'est vraiment la démocratie avec un grand la, et ils croient que les populations vont se soulever pour appliquer ce modèle américain, notamment en Irak et en Afghanistan. Ça conduit à deux catastrophes géopolitiques avec les États-Unis. Même s'ils ont tenté de s'en sortir par la géostratégie du chaos, c'est une politique qui débouche directement sur l'irréalisme de la politique de Trump. Actuellement, nous avons des gens, Trump a mené une politique irréaliste, Macron se comporte encore comme s'il était un proconsul au temps du colonie du 19e siècle, quand vous le voyez intervenir en Afrique, au sommet de Montpellier ou au Liban lors de ses visites, c'est un proconsul occidental. Il a encore démontré l'irréalisme lorsqu'il a prétendu prendre le sommet de la réunion de la COP26 il y a quelques jours. Lorsque vous écoutez le discours de Macron, vous avez l'impression que vous êtes devant le chef du monde. Et en réalité, la France, c'est une petite puissance géopolitique mineure qui est sur le déclin. C'est comme cela dans tous les domaines. Erdogan fait la même erreur, c'est-à-dire que Erdogan croit qu'il est en train de reconstituer l'Empire ottoman. Ce sont des objectifs irréalistes. Donc je ne crois pas que le bloc occidental reviendra au réalisme. Et je pense que, puisque les géopoliticiens américains prévoient la Troisième Guerre mondiale, ils sont les seuls dans ce cas-là. Eux, ils en parlent ouvertement. Des gens comme George Friedman, qui est le chef de file de la géopolitique américaine, c'est l'ancien patron de Stratfor. Lui, il évoque la Troisième Guerre mondiale entre 2005 et 2070. Eh bien, cette Troisième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'il pense, je suis persuadé, moi, qu'ils vont la perdre. D'autant plus que leurs adversaires, eux, sont des gens réalistes. Il y a notamment, puisque nous avons commencé à débattre de la marine, il y a justement ce plan de Vladimir Poutine pour reconstituer des flottes russes sur tous les océans, comme au temps de Brejnev et de l'amiral soviétique Gorchov. Il y a le plan de la marine iranienne qui visiblement maintenant a des objectifs de géopolitique, non pas mondiale, mais qui dépasse les objectifs régionaux. Et enfin, il y a la marine chinoise aujourd'hui qui a quitté la géopolitique de l'étranger proche pour se projeter en Afrique, dans le golfe de Guinée, dans l'océan Atlantique. C'est tout cela qui n'est pas pris en compte par les Américains. Une politique réaliste, elle voudrait se concilier, se partager le monde en zone d'influence. Ça suppose que les États-Unis ne dominent plus l'Europe. L'avenir au 22e siècle, ce sont des Occidentaux autocentrés, les États-Unis, mais ramenés comme une puissance régionale, et qui feront des accords géopolitiques entre eux bilatéraux. C'est l'avenir, c'est décrit tel quel depuis le début du XXe siècle par les géopoliticiens, et malheureusement, l'Amérique ne se dirige pas vers cet avenir.
Monsieur Egon, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel quand il parle des pays irréalistes et des pays qui ont les pieds sur terre?
Ah oui, oh ben tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel. Il est vrai qu'on a en Europe ou aux États-Unis une vision totalement décalée des réalités de la politique internationale. Moi, je pense que le problème, c'est que tout ceci, même si ça ne conduit pas à un véritable conflit mondial, parce que je ne le vois pas arriver de cette façon, je pense malgré tout que le système financier que l'on a dans le monde occidental va s'effondrer dans les années qui viennent, et ça va faire des dégâts impressionnants au niveau de notre propre économie. Donc nous n'aurons plus la possibilité financièrement de pouvoir intervenir dans ces pays, et comme le disait très bien Luc Michel, on va avoir quelques zones d'influence, on deviendra un peu des puissances régionales, mais on n'aura plus cette ambition de pouvoir gérer le monde. D'abord, nous n'en sommes pas capables, je dirais sur un plan politique, mais on n'a pas les moyens financiers de notre politique. Donc, il est clair que dans les 20 ans qui viennent, je pense qu'on va voir de très grands bouleversements dans la stratégie de la gestion du monde. Et ce qui va être un point positif pour un grand nombre de pays, de pouvoir se développer et se développer à leur rythme, ce qui est une très bonne chose pour la paix et pour le bien-être des peuples, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque si on laisse faire le monde occidental dans la gestion du monde, eh bien, ça va nous amener droit, non pas vers un conflit mondial, puisque je ne le pense pas, mais à des conflits locaux qui seraient extrêmement violents. Donc, c'est une très bonne chose que cette crise financière puisse arriver dans les années qui viennent, puisque ça va remettre, réajuster, rééquilibrer la situation financière mondiale, et ça va obliger les pays occidentaux à voir la réalité en face. Et il n'y a qu'une possibilité pour ça, c'est qu'il y ait cet effondrement financier.
Pour confirmer ce que vous dites un peu, Philippe Hugon, donc cette humiliation française avec cette rencontre de Biden avec Emmanuel Macron après avoir volé sous le nez de la France maladroitement, ils ont admis eux-mêmes, les États-Unis, maladroitement, donc ce contrat important des sous-marins de l'Australie qu'ils ont annulé justement.
Oui, alors quand on dit maladroitement, je suis prêt à accepter le titre de maladroitement. Moi, je pense que c'était délibérément fait afin de torpiller les Français sur le dossier des sous-marins. Je pense que quand on a des dossiers qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, eh bien, je pense qu'il n'y a plus du tout de sentiment dans les affaires. Et les Américains étaient très, très contents de récupérer un certain nombre de contrats. Ils ont déjà torpillé dans l'histoire le Concorde, ils ont torpillé un certain nombre de contrats, on a bien vu leur façon de faire. Moi je pense que c'est vraiment pas réaliste de penser qu'on puisse faire un front commun avec les États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en position de survie actuellement, ce qui est le cas également de l'Europe d'ailleurs, mais je pense pas que c'était si maladroitement effectué. Je pense qu'au contraire ça a été délibéré de la part des Américains de façon à ne pas passer à côté d'un contrat aussi juteux que les sous-marins. Alors après, bien sûr, vous avez lors des réunions comme ça entre chefs d'État, des gens qui vont s'excuser ou à demi-mot, si je puis dire. Mais par ailleurs, ça ne change pas grand-chose à la réalité de la situation, d'où l'intérêt qu'il faudrait aujourd'hui que l'Europe soit vraiment très forte, de façon à pouvoir faire un véritable front commun envers les États-Unis, puisqu'ils se permettent tout depuis une soixantaine d'années. Et ils n'ont plus cette position aujourd'hui, donc ils utilisent des moyens très, très malhonnêtes, parce que je pense que ça a été fait malhonnêtement, de façon à torpiller ce marché.
Tout à fait. Philippe Hugon, merci beaucoup depuis Paris d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien qui a gentiment accepté notre invitation depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Iran, exercice militaire hybride couvrant une vaste de superficie du territoire national et des côtes du pays. Le système de défense antiaérienne, le 15 Khordad, a intercepté et détruit les cibles de l'ennemi fictif lors de l'exercice militaire Zulfaror 1400, entamé le dimanche 7 novembre près du détroit d'Ormuz. Un aéronef ennemi qui tentait d'entrer dans la zone générale de l'exercice a été identifié par les radars de la DCA de l'armée iranienne, a été finalement détruit par un missile tiré depuis le système 15 Khordad, selon la décision du réseau intégré de la défense antiaérienne. Dans la foulée, l'amiral Mahmoud Moussavi, porte-parole de l'exercice conjoint Zulfaror 1400, a déclaré « Le 15 Khordad est un système de défense antiaérienne conçu de A à Z en Iran. » Il a ajouté que le système avait déjà été mis à l'épreuve lors de différents exercices de la DSA de l'armée. Le 15 Khordad a passé tous ses tests avec succès, a-t-il précisé. Selon l'amiral Moussavi, les artilleries ont identifié de petits aéronefs et ont effectué des tirs sol-air. En plus, les drones Karar ont réussi à intercepter les aéronefs ennemis, a-t-il déclaré. L'amiral Mahmoud Moussavi a réaffirmé que les F-4 avaient effectué des vols nocturnes et lâché des leurres afin d'épauler les forces qui combattaient sur le sol. Les F-4 ont également parcouru un très long trajet depuis leur hangar jusqu'à la zone générale de la manœuvre et ont été approvisionnés en plein vol. L'amiral Moussavi a ajouté que les F-4 avaient également pu détruire leurs cibles par des missiles optimisés et les missiles air-sol de nouvelle génération. Les unités d'artillerie, de blindés, d'hélicoptères et de drones de la force terrestre de l'armée ont couvert le feu sur les forces de l'ennemi fictif et détruit les cibles ennemies, a-t-on appris du porte-parole de l'exercice. Dans ce droit fil, le commandant de la base centrale de Khatamol Anbiya, le général de brigade Ghulam Ali Rachid, a déclaré que les forces des armées iraniennes composées des forces du corps des gardiens de la révolution islamique et celles de l'armée étaient en mesure de neutraliser toutes les menaces provenant de toute puissance d'agression. L'armée de la République islamique d'Iran et les forces armées se tiennent toujours prêtes à mener une confrontation stratégique, opérationnelle et tactique contre l'alliance des ennemis, notamment celle scellée entre les États-Unis et leur régime sioniste afin de défendre la stabilité, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran, a-t-il souligné. Le haut niveau de disponibilité et les remarquables capacités des forces navales terrestres aériennes et de défense antiaérienne de l'armée se sont bien exposés aujourd'hui lors de ce grand exercice militaire qui est en cours dans la zone générale du sud de la province du Sistan et Baloutchistan, la province de Hormozgan, les côtes de Makran et le nord de l'océan Indien, a souligné de ce haut gradé iranien devant un groupe de commandants de l'armée en marge de l'exercice conjoint Zulfaror 1400. L'Iran et la Syrie sont prêts à étendre leurs relations scientifiques bilatérales. Lors d'une rencontre avec le ministre syrien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le vice-ministre iranien des sciences, de la recherche et de la technologie a souligné l'intérêt de Téhéran pour l'élargissement des relations scientifiques entre les deux pays. Nous voulons passer du niveau de la communication et des échanges d'étudiants à des niveaux supérieurs et plus efficaces et élargir les relations entre les deux pays dans le domaine des nouvelles technologies, a déclaré lundi 8 novembre Mohammad Soleimani, vice-ministre iranien des sciences, de la recherche et de la technologie. Une réunion entre une haute délégation scientifique syrienne représentant
représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République arabe syrienne, présidée par Bassir Ibrahim, et Mohammad Soleimani, vice-ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie, et chef du Centre pour la coopération scientifique internationale, et les ministres adjoints, a eu lieu ce lundi à Téhéran. C'est l'Arabie saoudite qui doit s'excuser auprès du peuple libanais, a souligné le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, Sheikh Naïm Qassem, a souligné que l'Arabie saoudite n'est pas satisfaite du chef du gouvernement du Liban, Najib Mikati, considérant sa position à l'égard de Beyrouth comme une agression et la qualifiant d'injuste, tout en enjoignant à Riyad de se rétracter et de s'excuser. Cheikh Naïm Qassem a évoqué l'actuelle crise diplomatique qui a éclaté entre Beyrouth et Riyad sur fond de déclarations faites par le ministre libanais de l'Information, Georges Cordaï, avant d'être nommé à son poste au sujet de la guerre au Yémen. Cheikh Naïm Qassem a relevé que la position saoudienne injuste envers le ministre honnête Cordaï, qui demeure clé dans sa pensée et ses convictions et qui n'a pas commis de tort à l'endroit de l'Arabie saoudite ou d'un autre pays, est une position que l'on peut considérer comme étant une agression contre le Liban, estimant que l'Arabie saoudite a procédé à tous les actes à connotation négative sans une raison impertinente. Il n'est pas requis de la victime de l'agression. En l'occurrence, le Liban aurait de se céder et de s'excuser, mais c'est plutôt à l'agresseur, à savoir l'Arabie saoudite, de se rétracter et de s'excuser auprès du peuple libanais, a ajouté Cheikh Naïm Qassem. L'Arabie saoudite est insatisfaite du chef du gouvernement libanais Najib Mikati ainsi que de l'ensemble des membres du gouvernement et n'était pas non plus satisfaite de la formation du gouvernement précédent par Saad Hariri dans la mesure où elle avait un chef du gouvernement qu'elle souhaitait installer au Liban mais qui n'est pas parvenu à atteindre la présidence. Plus d'un mois avant sa nomination au poste de ministre de l'Information, en date du 10 décembre dernier, Cordaï avait déclaré lors d'une entrevue télévisée enregistrée le 5 août et qui avait été diffusée depuis l'une des plateformes électroniques de la chaîne qatarie Al Jazeera le 25 octobre que les Houthis au Yémen se défendent contre les agressions de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qualifiant la guerre d'absurde et estimant qu'elle devrait s'arrêter. Les forces yéménites et les combattants des comités populaires Ansar Allah ont pris le contrôle d'une base militaire clé dans la province stratégique de Ma'arib, riche en pétrole, et se sont rapprochés du cœur des réserves énergétiques de la région. Des sources militaires locales, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que les troupes de l'armée et leurs alliés ont lancé des attaques intenses dans le district d'Al-Djouba de Ma'arib et ont réussi à s'emparer de la base d'Oum Rich vendredi après des heures de combat avec des mercenaires saoudiens. Les sources ont ajouté que les forces yéménites avaient attaqué la base militaire dans diverses directions et forcé les militants soutenus par les saoudiens à se retirés de la région. Ils ont noté que la base comprend des centres d'entraînement et qu'il s'agit du dernier bastion de forces parrainé par l'Arabie saoudite dans la partie sud de Ma'arib. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.